it was a wonderful moment because an efficacy rate of over 90% is incredibly positive, and therefore we are absolutely happy with this outcome.
10 mois de Covid et tout à coup, l'espoir que les secours arrivent. Oui, ils ont cette toute petite voix, les secours. C'est celle du médecin-chercheur Ugur Sahin, absolutely happy. Avec son épouse, ils ont créé BioNTech, la start-up allemande, qui avec Pfizer, le géant américain, nous a annoncé un vaccin efficace à 90%. Alors vous pouvez choisir votre grille de lecture, hein, une histoire de capitalisme sympa, David et Goliath, main dans la main. Une histoire de mondialisation heureuse, Allemagne, États-Unis. Ou alors une histoire d'immigration réussie pour deux familles venues de Turquie. C'est l'avis des économistes. Laisser bouger les populations, c'est vivifier le flux des talents. Mais attention quand même, hein. Avec cette interprétation terrain glissant, ne pas laisser croire que c'est possible pour tous, puisque eux, ils l'ont fait. Ne pas laisser penser que la bonne mesure pour être un immigré bien intégré, ça serait quoi ? Sauver l'humanité ? Bon, d'ailleurs, on n'y est pas à sauver l'humanité, hein. La réelle efficacité, la disponibilité, le transport, le stockage, le scepticisme, les polémiques, il y a encore beaucoup d'inconnus, beaucoup d'obstacles. Quant à sauver l'économie, écoutez, je vous résume le sentiment général, ce vaccin, c'est une bonne nouvelle, oui, mais pour le moyen terme, hein, c'est ce que nous a dit Jérôme Powell, le président de la Fed. Bref, la cavalerie approche, elle n'est pas encore là.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, nous sommes le samedi 14 novembre. Le Mag Echo est réalisé par Juliette Gou, Valentin Pérez est attaché de production et c'est Serge Viguier ce matin qui est derrière la console technique. Bonjour à vous les débatteurs, Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne, le directeur. Bonjour.
Bonjour.
Tous les mots sont là mais un peu dans le désordre en fait. Et Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques.
Dans l'ordre j'espère, bonjour.
Bonjour. Christian, vous qui fêtez les 40 ans du magazine.
Ouais. Oui, 40 ans d'alternative économique, on est encore là. Qui aurait pu dire ça au moment où Alter Echo est lancé avec pas d'argent, pas de campagne de pub, pas de sponsor, pas d'actionnaire. Et voilà, 40 ans après, on est toujours là.
Et moi, je me souviens que je suis rentrée dans le métier et c'était les 20 ans d'Alter Echo.
Et ben voilà.
Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et ce matin, Laurent Bigorgne a voulu un débat alternatif pour célébrer son partenaire de débat. Alors, débat sur... Le Covid qui nous bouscule, hein, Laurent.
Ouais,
le
Covid qui bouscule nos dogmes économiques.
Et donc on se retrouve...
Point d'interrogation.
Point d'interrogation. Je sens qu'il y a débat, ouais. Pas choisi au hasard ce thème. On se retrouve dans un instant. Au programme également, le télétravail saison 2. Dans les entreprises, ça a l'air à la fois plus simple et plus compliqué qu'au printemps. Reportage et interview, Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, sera avec nous vers 9h45. Et puis vous posez toujours vos questions à Madame Vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, question d'une infirmière, c'est ça ?
Oui, exactement, une question d'Anne. Elle s'interroge sur l'indemnité forfaitaire, vous savez, qui a été décidée après le Ségur de la Santé. Est-ce une vraie augmentation de salaire ou plutôt une prime qui ne comptera pas pour sa retraite ? C'est sa question.
Bon, et on a pas mal d'infirmières qui nous écrivent, en effet, sur tous ces sujets. Merci à elles. Et la réponse, ça sera juste avant 10h. Tout de suite, la bande-son de la semaine, exaspération, espoir et puis statu quo.
Si je pouvais répondre à la place du gouvernement, bien évidemment, je réouvrirais les commerces avec des mesures pour certains sanitaires renforcées, s'il le fallait. Ils sont prêts, d'ailleurs.
François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
C'est très dur, parce que lorsque vous n'avez pas de recettes et que vous êtes commerçant, vous avez un statut d'indépendance, qu'on appelle les TNS, travailleurs non salariés. Pas de recettes, pas de revenus, pas de salaire. Et puis, ben, si vous devez baisser le rideau, il vous reste des dettes, parce que vous n'avez pas de chômage.
La grande distribution... En gros, fait ce qu'elle veut. Elle gagne beaucoup d'argent, d'ailleurs. Elle licencie aussi.
Philippe Martinez.
Et puis, les petits commerces sont fermés. Donc, il y a deux poids, deux mesures.
Secrétaire général de la CGT.
Oui, il faut prendre des mesures qui permettent aux citoyens de se dire, bah, moi, je suis traité comme les autres.
Jean Castex.
Avec le président de la République.
Premier ministre.
Nous avons décidé de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir.
Bruno Le Maire.
Toutes les mesures économiques massives que nous avons mises en place pour les commerçants,
ministre de l'économie,
continueront de s'appliquer dans les 15 jours qui viennent. Nous savons également que la question des loyers reste la question majeure pour une immense majorité de commerçants. Je vous annonce que nous mettrons en place un dispositif pour les loyers des commerçants. Un crédit d'impôt de 50% du montant du loyer abandonné pour tous les bailleurs qui renoncent au loyer du mois de novembre, pour toutes les entreprises qui ont jusqu'à 250 salariés et qui sont fermées.
La grande difficulté du gouvernement français, mais je crois aussi de quand même de beaucoup de gouvernements, c'est de trouver la bonne ligne de crête, quoi. C'est-à-dire de savoir comment continuer à fonctionner.
Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.
Donc il faut trouver une stratégie d'équilibre qu'on n'a pas trouvée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu des décisions qui sont prises dans la panique. C'est terrible pour les agents économiques, parce qu'on n'est pas capable de se projeter au-delà d'une semaine.
La difficile ligne de crête. On va commencer quand même par cette conférence de presse qui a eu lieu jeudi, conférence de presse du Premier ministre avec les ministres autour. Le confinement, pas de relâchement. La perspective, c'est le 1er décembre pour les commerces. Mais en tout cas pas pour les bars, ni les restaurants, les salles de sport. Christian Chavagneux, que retenez-vous ?
Pas grand chose de nouveau en fait. Moi j'ai trois inquiétudes, des situations potentielles de prédation d'abord, parce que vous savez, dans les centres-villes, quand vous avez un restaurant ou un magasin d'habillement qui ferme, souvent trois semaines après, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Donc attention à ne pas fragiliser des commerçants déjà fragiles qui pourraient se faire racheter par ceux qui pourraient avoir profité un petit peu de la crise. Quand une librairie, un cinéma, un théâtre ferme, on perd plus que des points de PIB et des emplois. Et là, j'aurais bien voulu que le gouvernement nous dise il y a des petits commerces spécifiques, entre guillemets. Il y a des activités non essentielles, mais qui sont pourtant essentielles, qui sont un peu spécifiques. Et moi, j'aurais bien voulu que le gouvernement nous dise là, il y a quelque chose de différent.
Sur
là,
la culture.
Oui, sur la culture. Et pour l'instant, j'entends pas grand chose. Et puis enfin, il y a cette impression quand même prolongée que le gouvernement est complètement dépassé, comme depuis le début, en fait, qu'on confine, mais pas vraiment, on ferme les commerces, mais pas tous. Peut-être qu'on va ouvrir au 1er décembre, mais peut-être pas. Et pour Noël, j'espère, mais ou pas. Enfin, vous voyez, le gouvernement ajoute de l'incertitude à l'incertitude dans cette période. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire.
En tout cas, pour l'économie, Laurent Bigorgne, à votre lecture, vous ?
Oui, je serais un peu moins sévère, au sens où, gouverner est un art, et en ce moment, c'est un art extraordinairement complexe. Je pense que le gouvernement, comme l'a dit Mathieu Plane dans le petit sujet, cherche la ligne de crête, cherche l'équilibre. C'est sûr que sur les petits commerces, on tombe sur un os, parce que est-ce que les gens doivent faire des stocks dans les perspectives des fêtes de Noël ? Est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir avec deux inconnus qu'on ne sait pas bien traiter ? La première, c'est la question des loyers, qui est rampante depuis un mois. Donc on nous dit maintenant on va passer de 30 à 50%
de
pour
crédit
les crédits d'impôt, pour les bailleurs. La deuxième question, c'est la question des stocks. Et là, on arrive un peu au bout des outils déjà non conventionnels qu'on a mis sur la table. Est-ce qu'il faut faire du prêt garanti ? Est-ce qu'il faut faire de la subvention pour aider certains à passer le cap ? Et à partir de là, pour qui on fait de la subvention ? Ces questions sont extrêmement complexes.
Oui, pour le petit commerce, en effet, les chats. En tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même que l'État, c'est-à-dire nous, les contribuables, on prend de plus en plus à notre charge les charges fixes parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est ça ?
Ben exactement. Avec une petite lueur d'espoir, on a parlé du vaccin au début de l'émission. Les chiffres de la Banque de France pour octobre sont moins mauvais que ceux de Bercy. Alors vous allez me dire qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, mais manifestement, la chute de PIB serait un peu moins importante que ce qu'on avait anticipé, même s'il y a débat entre la Banque de France et Bercy.
Bon, on va continuer à suivre, évidemment. On continuera nous aussi nos points d'étape. Le débat ce matin, Christian, Laurent, c'est ce Covid qui bouscule certains dogmes, certaines lois économiques. On en prend deux ce matin qui sont derrière. Bah tiens, on parlait des mesures. Il faut s'endetter. On est en train de s'endetter, Christian Chavagneux. S'endetter toujours plus, ça n'est pas possible. C'est ce qu'on a entendu toutes ces dernières années. Et pourtant, en ce moment, c'est possible de s'endetter toujours plus. Comment ça se fait ?
Oui, c'est possible parce qu'on a tiré les leçons, j'espère, de 2007-2008, la crise financière. On a géré cette crise avec beaucoup de dépenses publiques et tout de suite derrière beaucoup d'austérité. Or, quand l'économie plonge, la dépense publique doit se substituer à la dépense privée, les celles des entreprises, celles des ménages qui n'est pas là. Et les investisseurs, il déborde d'épargne. Quand la France veut s'endetter, il y a plein de gens qui veulent prêter des sous à la France. Et structurellement, c'est ça que font aussi les États. C'est arriver à socialiser, à remettre dans l'économie cette épargne qui, si elle restait une épargne sans utilisation, eh bien, nous plongerait dans la récession. Il y a bien sûr un deuxième élément qui est clé. C'est aussi que la Banque Centrale Européenne finance en grande partie le coût de la crise, hein, puisqu'elle achète de la dette française, par exemple, beaucoup plus que le surcroît de dette publique que nous coûte la Covid en ce moment. Et puis peut-être, mais j'attends de voir les élections allemandes qui sont dans un an, peut-être que ce qui joue aussi, c'est que l'Allemagne a aussi changé. C'est que l'Allemagne était le pays, reste le pays le plus puissant d'Europe, celui qui nous imposait aussi l'austérité, celui qui nous imposait de contenir la dette. Et l'Allemagne s'est peut-être retournée idéologiquement, elle a accepté qu'il y ait de la dette au niveau européen. Est-ce que c'est un retournement complet? Est-ce que c'est juste conjoncturel? Je ne sais pas. J'attends les débats économiques au moment des élections législatives dans un an.
Oui, mais Laurent Bieguin, on nous disait, quand on nous disait qu'ils s'endettaient toujours plus, ça n'est pas possible. C'est parce qu'on disait qu'il y avait des grands périls. Est-ce que les grands périls à s'endetter toujours plus? Je ne sais pas, on m'a toujours dit plus de monnaie, ça fait plus d'inflation, par exemple. On m'a dit attention aux bulles. Est-ce que les grands périls ont disparu?
Alors, la première, le premier des périls, l'inflation, est à la fois un péril et en même temps un mal nécessaire, au sens où quand on s'est endetté beaucoup, un des moyens de se désendetter, c'est l'inflation. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu d'inflation suite aux politiques qui ont été décidées après 2008, de qu'on appelle d'assouplissement quantitatif, d'assouplissement monétaire. Pourquoi? Parce que les acteurs économiques ont eu des anticipations déflationnistes, et puis les ménages, les entreprises, les institutions financières ont énormément thésaurisé une partie de cet argent. Et donc, on n'a pas vu d'inflation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne serait même pas dans un risque d'inflation, mais de déflation, si on en croit les thèses de Larry Summers, qui a été le secrétaire au Trésor de Bill Clinton. Il nous dit quoi, Larry Summers? Au fond, le taux d'intérêt réel des économies, qui sont des économies affaiblies, est trop bas. Et donc, de fait, si on veut qu'il y ait un stimulus monétaire, il va falloir encore baisser les taux et arriver en zone négative, ce qui est évidemment durablement pas possible. L'affaiblissement des économies avec le Covid, évidemment, et renforcé. Il y a un troisième facteur de long terme, c'est le vieillissement. Sachant qu'il y a débat sur les effets du vieillissement, il y en a certains qui nous disent c'est déflationniste, tout simplement parce que les actifs qu'on va utiliser pour financer le vieillissement vont contribuer à la baisse des taux. Et puis il y en a d'autres qui nous disent, un livre récent qui est sorti, le vieillissement, attention, pourrait être inflationniste. Donc peut-être que l'inflation n'a pas encore totalement disparu de nos radars économiques.
Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire les périls n'ont pas totalement disparu, c'est possible? C'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Oui, les périls n'ont pas totalement disparu, on va en parler, mais cette politique qui fait qu'il y a énormément de liquidités disponibles, que par ailleurs la politique budgétaire prend relais de la politique monétaire, parce qu'au-delà des efforts que font les banques centrales, qu'a décrit Christian, il faut que les États fassent des efforts, cette politique, elle a une fin. Cet argent magique, il ne peut pas durer éternellement.
Christian?
Oui, l'inflation est un phénomène monétaire, grande loi de l'économie, parce que c'est complètement faux. Hein. Des années 70, 80, 90, et depuis 2008, Laurent l'a bien dit, on n'a jamais créé, les banques centrales n'ont jamais créé autant de monnaie, et pourtant on n'a jamais eu aussi peu d'inflation.
Alors,
l'argent magique. Mais certains économistes disent, oui, mais attendez, peut-être que sur les produits qu'on achète au jour le jour, il n'y a pas beaucoup de hausse des prix, mais en fait, cet argent, il se retrouve sur les marchés financiers, sur les marchés immobiliers, et là, vous avez des bulles financières, des bulles immobilières. En même temps, aux États-Unis, au Japon, en Europe, au Royaume-Uni, dans tous les grands pays, les banques centrales ont fait ça, d'accord? Elles ont mis de l'argent magique partout. Et pourtant, les bourses n'ont pas monté partout de la même façon. L'immobilier n'a pas monté partout de la même façon. Même en France, à Saint-Etienne, les prix de l'immobilier, par exemple, ils s'effondrent, alors qu'en Ile-de-France, ils montent plutôt. Vous voyez, si c'était vrai, si cet argent des banques centrales se retrouvait dans des bulles immobilières ou des bulles financières, on devrait avoir une montée générale des bourses et des prix d'immobilier. C'est pas ce qu'on observe.
Vous, Laurent, les bulles, ça vous inquiète?
Oui, la première de ces bulles, pardon, je vais essayer d'être un peu paradoxal parce qu'il s'agit aussi de débattre. C'est la bulle de la dette publique. Ce que crée l'argent magique, c'est effectivement du surendettement. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, on a confié le sac bougeau aux banques centrales. Et d'ailleurs, au début de la crise du Covid, il faut se rappeler que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a dit aux politiques, prenez vos responsabilités.
Faites de la politique budgétaire, dépensez.
Faites de la politique budgétaire et allez l'assumer devant vos opinions. Ce qui est inquiétant avec cet argent magique, c'est qu'il y a une multiplication des bulles spéculatives, ça c'est sûr. Il y a aussi des marges de manœuvre pour les pays surendettés qui se restreignent au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on s'endette toujours un peu plus, puisque l'argent est gratuit, voire on vous en donne pour que vous empruntiez. Et puis, il y a une explosion des inégalités. Mais moi, j'aimerais insister sur les risques politiques. Attention à ne pas décrédibiliser à un moment l'argent même, et les banques centrales, comme sont aujourd'hui décrédibilisées les États. Et surtout, attention à la zone euro. Parce que, si vous voulez, pour l'instant, on achète du temps avec cet argent, mais les divergences qui sous-tendent la zone euro, par exemple entre l'Allemagne et la France, se creusent. Et on verra, Christian soulignait tout à l'heure, il y aura des élections générales en Allemagne. Il n'est pas impossible que l'Allemagne, à cette époque, soit repartie et que la France soit au fond du trou.
Avec beaucoup de dettes et l'Allemagne qui aura moins de dettes et qui...
Et qui aura moins de dettes et qui aura une économie plus vigoureuse.
Mais qui aura aussi beaucoup de dettes et peut-être économie plus vigoureuse, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a, grâce aux banques centrales, la possibilité de ne pas rembourser cette dette pendant des décennies et des décennies, je pense.
On arrive à ce sujet. Est-ce que cette dette... Alors là, de quelle dette parlez-vous? Est-ce que vous parlez de toute notre dette?
Non, je parle de la dette publique, COVID. Celle des gouvernements, Covid, et puis celle d'avant Covid, celle de la crise financière aussi. On a pris, à chaque fois qu'on a une grande crise, on prend 20 points de dette publique de plus.
Oui, quoi. C'est ça. Rappelez-nous un petit peu d'où on partait. Et puis le Covid, qu'est-ce que ça nous rajoute comme dette?
En fait, on n'avait pas beaucoup de dette jusqu'aux années 70. Les années 70, 80, 90, on a une explosion de la dette parce qu'on a pas tellement beaucoup de dettes, mais des taux d'intérêt extrêmement forts. Et là, pour rembourser la dette passée, on est obligé de se rendetter à des taux d'intérêt beaucoup plus forts que la dette passée. Donc là, on a un effet boule de neige, comme disent les économistes. Jusqu'au milieu des années 90, la dette en France, elle explose. Et puis à partir du milieu des années 90, les taux d'intérêt ne cessent de diminuer, bien avant l'intervention des banques centrales. Et là, on a ce paradoxe qui est qu'on prend à peu près 20 points de dette supplémentaire au moment de la crise financière. On en prend à peu près 20 points de plus avec la Covid. On en a pris 20 points avant. Pourquoi ? Parce que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont baissé les recettes fiscales et on a creusé les déficits. C'est ça aussi l'explication de la dette en France.
Mais
on a
tout ça. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est qu'on est à 120% de dette, mais ça nous coûte moins cher, Laurent, en charge d'intérêt.
Beaucoup moins cher.
Ça nous coûte beaucoup moins cher qu'il y a 20 ans.
Ça nous coûte paradoxalement beaucoup moins cher jusqu'au jour où ce mécanisme cessera. J'aimerais dire qu'à court terme, quand on écoute des économistes comme Olivier Blanchard, il y a pas de sujet. Et évidemment,
l'ancien chef économiste du FMI.
À court terme, au fond, l'augmentation de la dette n'est pas évitable. Dans la durée, il y a une question de crédibilité. Et il y a une question de crédibilité qui va beaucoup interroger les politiques économiques qui vont être conduites à partir de maintenant. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on va poser la question du remboursement de la dette? Donc, la France a une caractéristique, si je reviens un instant à notre pays, c'est que nous, on a beaucoup de dettes publiques, mais on a aussi énormément de dettes privées.
Ça, c'est sûr. Hein.
Et donc, là, on peut avoir, à un moment ou à un autre, un vrai gros sujet de fragilisation des entreprises et derrière du tissu bancaire. Donc, il y a bien un moment où il va falloir avoir un discours de vérité. Une dette, ça se rembourse. Alors, il n'y aura pas d'inflation, si j'en crois les projections. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut retrouver de la croissance. Et donc, il faut accepter qu'on ait des politiques économiques dans les années qui viennent qui soient beaucoup plus tournées vers la croissance potentielle. Et la croissance potentielle, il y a une partie très agréable à raconter.
Ça veut dire quoi, ça? En clair, pour les auditeurs.
C'est de la recherche, c'est de l'investissement dans le futur, c'est aussi travailler plus et produire plus. C'est ça, la croissance potentielle.
Alors, on arrive aux réformes structurelles. Christian, allez-y. Puis après, je veux absolument vous poser ma question sur les enfants. Est-ce que c'est vrai? On entend ça. Nos enfants, tant pis pour nous, nos enfants rembourseront. Il va falloir que vous me disiez si c'est vrai ou pas.
Alors, déjà, il faut dire que la dette, on la rembourse. Hein. Il s'agit pas de dire que la dette, on la remboursera jamais, sauf que on va la rembourser, la dette publique, je parle, pas la dette des entreprises, dans très 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 longtemps. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne, c'est vrai, à un moment donné, elle va arrêter d'acheter la dette française. Elle va dire, bon, stop, là, maintenant les économies sont à peu près reparties, j'arrête d'acheter. Sauf que, elle nous a dit autre chose, la Banque Centrale Européenne, elle nous a dit, toute la dette que j'ai achetée, il y a toutes ces années, toute la dette que j'ai achetée, je vais continuer à vous la refinancer. Je vais vous reprêter de l'argent pour que vous puissiez la rembourser.
On va faire rouler la dette.
On va faire rouler la dette. Ce qui fait que toute la dette Covid, mais on va la rembourser dans peut-être une génération ou peut-être deux générations. Donc ça, vraiment, on n'a pas besoin de s'inquiéter.
Alors, et qui répond à Laurent, je vous la pose. Alors, est-ce que c'est vrai de dire ou pas que ce sont nos enfants qui paieront?
Maintenant,
que Christian nous explique le roulement de la dette.
Non, mais ce sera nos enfants, nos petits-enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas faire une focalisation sur la dette Covid. En l'occurrence, ce n'est pas le plus gros problème. Le problème, c'est qu'on a, et on l'a vu dans la crise, on a un assez haut niveau de dépenses publiques, 56 points de PIB avant la crise. On va monter à 65, mais c'est pour des phénomènes aussi qui sont statistiques. C'est-à-dire qu'on a un PIB qui a diminué, et puis des ressources fiscales qui ont diminué aussi. Ce qui est, à mon avis, très très important, c'est qu'on a véritablement besoin de poser, y compris dans la perspective de la présidentielle de 2022, la question de l'efficacité de la sphère publique française. C'est ça, à mon avis, qu'il faut regarder et qui est plus important aujourd'hui que la question de la dette en elle-même.
Et donc le prochain débat, ça sera sur comment rendre, enfin un des prochains débats sont sur comment rendre ces dépenses publiques plus efficaces. Allez Christian, les 30 dernières secondes pour
non,
vous.
Non, c'est juste pour dire que pour répondre à votre question, c'est pas nos enfants, nos petits-enfants qui rembourseront la dette. La dette d'aujourd'hui, elle est financée par les épargnants d'aujourd'hui. La dette de demain sera remboursée par les épargnants de demain.
Alors
la question,
c'est pourquoi épargnants.
La question, c'est est-ce que ceux qui paieront, il faudrait pas que ce soit les riches qui aient les créances et les pauvres qui payent les impôts pour rembourser la dette. Donc c'est une question de redistribution. C'est pas une question de génération.
Bon, bah écoutez, on a réussi à faire un dogme. S'endetter toujours plus, c'est possible, mais c'est pas si simple et ça pose beaucoup de questions dans l'avenir. On reste là-dessus. On fera un autre dogme, promis, dans un prochain
mais
débat.
Mais suffit de dire alternative économique pour les autres dogmes.
Oh, pas mal. Oui, j'avais pas prévu la pirouette.
Ou alors de me faire dans 20 ans.
Allez, la planète éco, vu d'ailleurs, écoutez, on continue à parler du Covid, bien sûr. Ce matin, direction Bruxelles. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Angélique, vous êtes notre correspondante permanente auprès des institutions européennes et cette semaine, la Commission nous a annoncé une Europe de la santé. Alors on voit bien le problème, hein, les quarantaines, les tests, les statistiques, le manque de coordination des 27, il est criant, sans parler de notre dépendance à l'Asie pour la fabrication des médicaments, des masques et des respirateurs. Tous ces problèmes, comment les résoudre? Eh bien, Bruxelles a donc donné sa réponse, Angélique.
Et oui, pour Bruxelles, il faut sortir de l'urgence, hein, comme on l'a vu ces derniers mois. On a colmaté les brèches, en fait, hein, c'est ce qu'a fait la Commission. Elle a débloqué 2,7 milliards d'euros pour doter les Européens de matériel médical, de médicaments, et puis pour financer, bien sûr, la recherche d'un vaccin. Mmh. Elle a passé des accords de préachat avec des labos pour s'assurer que les Européens seront bien servis. Hein, 300 millions de doses, par exemple, pour le futur vaccin Pfizer-BioNTech, qui est à ce stade, vous le disiez tout à l'heure, le plus prometteur. Mais tout ça, ça s'est fait un peu dans la panique, en fait, au fil de la pandémie.
Et donc, pour se préparer à d'autres pandémies, la Commission fait des propositions avec une philosophie principale.
Oui, elle propose de prendre modèle en fait sur les Américains en créant une BARDA européenne. Alors qu'est-ce que c'est que la BARDA? Eh bien, c'est l'autorité pour la recherche biomédicale américaine qui dispose de moyens colossaux pour collaborer avec les laboratoires partout dans le monde. Elle finance par exemple des essais cliniques sur les vaccins en ce moment, sur le Covid, et s'assure via des partenariats publics-privés qu'ils seront bien produits, les vaccins, sur le sol américain. On ferait donc pareil sur le continent européen. On serait plus fort à 27, évidemment, pour négocier. Et puis les labos auraient un interlocuteur unique plutôt que 27 autorités de santé différentes. On pourrait aussi développer et stocker les composants ou les matériels médicaux essentiels en cas de crise, hein, dit la Commission, qui espère bien une entrée en vigueur en 2023.
Mais 2023, Angélique, à l'échelle de temps bruxelloise, c'est extrêmement rapide. Est-ce qu'on peut y croire?
Oui, c'est rapide. Hein. Il va falloir en plus négocier évidemment avec le Parlement, mais qui est assez favorable aussi avec les États. Là, c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que relocaliser des productions stratégiques sur le sol européen, cela va faire consensus. Mmh. Hein, mais déléguer des stratégies sanitaires en cas de crise à Bruxelles sera sans doute une autre paire de manches. Hein, tant la santé, vous le savez, est un sujet sensible auprès des opinions publiques.
Mmh. Angélique Bouin avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous. Merci aux débatteurs du Mag'Éco, Laurent Bigorne et Christian Chavagneux. Dans 10 minutes, notre invité, c'est un leader syndical, Yves Verrier, de Force Ouvrière. Dans l'actu sociale, on a Bridgestone qui ferme l'usine de Béthune. On a le confinement qui ne se relâche pas, la montée du chômage et puis le télétravail. Le télétravail, comment ça se passe dans les entreprises? Allez, couvrez-vous, ce matin il fait encore frais à Bordeaux, tout près de l'aéroport, la commune de Mérignac. Est-ce que vous voyez les bâtiments là, un peu futuristes, arrondis, métalliques? Ici, des ingénieurs aéronautiques conçoivent l'avion de demain et c'est là que nous allons ce matin avec notre reporter Caroline Pommès.
Donc là, on est devant les bâtiments du campus de Thalès, et c'est gigantesque. Donc oui, là, on arrive
au comité d'établissement.
Oui. Oui, parce que j'ai pas officiellement eu le droit de visiter le campus.
Donc maintenant, on va voir le bureau des élus. Tenez, on est sur la droite.
Bonjour. Vous êtes tous là. Bonjour.
Bonjour. Edwige Agosti, je suis programme manager officeur.
Votre outil de travail principal, c'est l'ordinateur?
Complètement. Je continue à venir donc une semaine, trois jours, une semaine, deux jours. Dès l'annonce du président, nous avons reçu un message de notre PDG, Patrice Kane. Je vais vous le montrer, là, le mail de Patrice Kane qu'on a reçu.
Voilà, donc il y a une phrase en gras aussi.
Aussi, toutes ces mesures déjà en vigueur au sein des sites de Thalès en France sont conformes aux annonces faites par le gouvernement et restent en application. Votre manager demeure à votre écoute pour répondre à vos questions.
Ça ne parle pas de télétravail?
Non. On continue tel que fait jusqu'à maintenant, à venir sur site.
Et vous, vous en pensez quoi de venir sur site? Est-ce que vous pensez prendre des risques pour votre santé ou celle de vos proches?
Donc effectivement, on a des mesures qui sont bien en place. On a le port du masque obligatoire. On a deux masques par jour qui sont fournis. Donc non, moi, je ne pense pas prendre de risque en venant chez Thalès. Néanmoins, on est quand même 2000 sur le site. Et donc, on s'attendait effectivement que, suite aux annonces de M. Macron, on rebascule à des périodes comme on avait eu, où on était en équipe jaune, équipe verte, on était à peu près moitié du personnel en même temps sur les sites.
Et ce qui n'a pas été le cas.
On leur a signalé à certains qui pouvaient prendre 2 jours. Par contre, l'imposition, pour moi, elle n'a pas été faite. Le débrief du télétravail pendant la période Covid, confinement 1, était très positif. Donc je suis aussi très surprise et aussi un peu désolée parce que ça transpire quand même la non-confiance et je pense que c'est un peu ça qui a un peu de mal à passer aussi.
Aujourd'hui, c'est l'un des gros sujets de flottement, voire de crispation, le télétravail. D'un côté, vous vous souvenez, il y a 15 jours, annonce du reconfinement. Télétravailler, ce n'est pas une option, 5 jours sur 5, partout c'est possible et le mieux, ça sera 100%. Et pourtant, dès le lendemain, dans certaines entreprises, des directions ont expliqué à leurs salariés que rien ne changeait. Alors, est-ce qu'il faut simplement conclure que les employeurs ne jouent pas le jeu ? Que faire quand on n'est pas d'accord ? La direction de Thalès n'a pas eu envie de s'exprimer au micro de Caroline Pomès. Alors on la retrouve, notre reporter, 200 km plus au sud, au Pays Basque, à Bidart. On change d'échelle. Hein. Là, nous arrivons devant l'agence web de Caroline Philips avec ses 12 salariés.
Donc là, je rentre dans l'entreprise et on a un chat qui est imprimé sur une feuille A4. Un chat masqué, stop, un masque et du gel, s'il vous plaît, au toit, please.
Oui. Auteuil, c'est Auteuil. S'il vous plaît, en basque. Et donc voilà, on fait un roulement. Donc aujourd'hui, on a à peu près un tiers de l'effectif.
Et vous n'avez pas zappé que le ministère a demandé 5 jours sur 5 le télétravail ?
Non. Aujourd'hui, dans 220 mètres carrés, j'estime que nous avons la possibilité donc, de garder la distanciation nécessaire. Comme vous avez vu, il y a une personne dans chaque pièce. Donc c'est sur la base de volontariat, si les gens vraiment ont besoin de venir... parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, ils viennent au bureau.
Vous ne dites pas « Ok, on recommence comme en mars ».
C'est-à-dire que nous avons fait venir donc, un expert en évaluation des risques. Nous avons appelé aussi la directe et nous leur avons dit « Bon, bah, nous avons des locaux de 220 mètres carrés, nous avons des salariés qui ne peuvent pas télétravailler dans de bonnes conditions ». Est-ce que ça pose un problème ? Ben non, à partir du moment où vous respectez la distanciation, vous mettez des masques si jamais vous vous croisez, pour eux, il n'y avait pas de problème.
Vous n'avez pas peur des contrôles ?
Ben là, je passe à la radio, donc je ne sais pas, ils vont peut-être venir. Mais je pense que on respecte, on a vraiment mis en travail un protocole. Ah ben tiens, c'est là.
Donc là, on est dans l'espace commun, parce qu'on a devant nous donc les dizaines de pages du protocole national édité par le ministère du Travail, les plannings, la charte relative à l'organisation télétravail.
Nous avons rédigé nous-mêmes une charte relative donc au télétravail, et nous avons aussi mis à jour notre document unique d'évaluation des risques. Au mois d'avril, ça c'était pour moi vraiment très important, et que tout le monde se sente en sécurité.
Et pour vérifier justement si le protocole sanitaire était bien respecté, les inspecteurs du travail sont déjà entrés dans 53 000 entreprises depuis le premier confinement. Mais maintenant, cette nouvelle obligation sur le télétravail est aussi inscrite dans le protocole. Alors que risquent vraiment ces employeurs qui rechignent à le mettre en place ? La question est en train d'arriver dans les cabinets d'avocats. Je suis cour Pasteur à Bordeaux, c'est un peu le quartier des avocats ici. Il y a des plaques devant toutes les portes. Et me voici au 33, donc Michèle Bauer, avocate à la cour, au premier étage.
Le télétravail, en effet, est préconisé par le gouvernement. Il y a un protocole qui a été diffusé, mais ce protocole n'est qu'un ensemble de recommandations. Le Conseil d'État l'a bien indiqué, ce sont des recommandations. Donc ça n'a pas force de loi. Le protocole n'est pas assorti de sanctions. La sanction qui peut y avoir, c'est un salarié qui va se plaindre devant le conseil de prud'homme parce que l'obligation de préserver sa santé et sa sécurité n'a pas été respectée par l'employeur. Il peut y avoir une autre sanction, ce sont les organisations syndicales, le CSE, donc qui remplace, vous savez, le CHSCT, qui va donc faire un droit d'alerte et qui va donc solliciter le tribunal judiciaire.
Donc les entreprises qui ne respectent pas cette règle du télétravail 5 sur 5 ne risquent rien.
Il va être très compliqué, en effet, de sanctionner des employeurs qui n'ont pas respecté leur obligation de préserver la santé et la sécurité. Si l'employeur a, par exemple, isolé le salarié, l'a mis dans un bureau, a mis à disposition des masques, a respecté les distances de sécurité, les parcours et tout ce qui est indiqué dans le protocole, comment on va pouvoir démontrer qu'il y a une atteinte à l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés?
Pourtant, le gouvernement le dit, il va y avoir des contrôles, notamment sur l'application du télétravail.
Oui, il dit qu'il va y avoir des contrôles, le gouvernement, mais moi j'y crois très peu, puisqu'il faudrait encore que l'inspection du travail ait les moyens d'effectuer ces contrôles. On a entendu parler aussi de beaucoup de contrôles qui devaient avoir lieu concernant le chômage partiel. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de sanctions à l'égard des employeurs qui ne respectaient pas les dispositions du chômage partiel. Donc je pense que c'est un effet d'annonce de la communication pour dire on fait le nécessaire, on lutte contre la pandémie. Mais à mon avis, il n'y aura pas tant de contrôle que ça, et même, je ne suis même pas sûre qu'il y en ait.
La semaine dernière, moins d'un salarié sur deux a fait du télétravail, et pas 5 jours sur 5. C'est ce que révèle l'étude commandée par le ministère du Travail. Et c'est sans surprise pour Arnaud Barillet, chargé de mission à l'ARACT, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. En clair, il accompagne les entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans la mise en place du télétravail.
Il y a encore beaucoup d'entreprises où la situation reste extrêmement tendue et puis des situations où les employeurs refusent encore le télétravail alors que les salariés ont bien constaté pendant le premier confinement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient télétravaillables entre guillemets.
Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur l'application du télétravail ?
Les chiffres donnés par le dernier sondage qui a été commandé par le ministère donneraient à peu près aux alentours de 20% des actifs en 100% télétravail. Ce qui est un peu moins que pendant le confinement où on a eu à peu près un peu plus de 30% en 100% télétravail.
Pourquoi ce n'est pas aussi simple qu'au premier confinement ?
Là, on voit qu'il y a plus de place à l'interprétation. Parce que la définition d'activité télétravaillable n'a pas été clairement posée. Alors c'est valable d'une entreprise à une autre, y compris sur un même secteur d'activité, mais c'est valable aussi au sein d'une même entreprise pour un même poste, en fonction des compétences du salarié, et puis aussi des choses qui font qu'on ne peut pas passer à 100% en télétravail. Donc, pour aujourd'hui, la plupart des salariés qui sont en télétravail, il y a encore une part d'activité sur site en parallèle.
Voilà, chacun s'organise un peu comme il veut avec le télétravail. En même temps, plus de 3 millions de Français l'ont découvert pour la première fois en mars et le gouvernement n'avait sans doute pas imaginé que ça deviendrait un sujet majeur du quinquennat. Myriam El Khomri est directrice du conseil au cabinet Ciaci Saint-Honoré. De 2015 à 2017, elle était ministre du Travail.
Je pense que le gouvernement est de fait dans une situation qui est, enfin, le contexte sanitaire et rend les choses extrêmement compliquées. Aujourd'hui, c'est pas une question tant juridique, c'est une question vraiment managériale. C'est-à-dire que vous allez avoir des employeurs qui vont être confrontés à des salariés qui sont frustrés de pas être placés en télétravail. Et donc, l'entreprise devra expliquer pourquoi ils ne le font pas. Et puis, vous en avez d'autres qui ne veulent surtout pas travailler à 100% en télétravail parce que, en effet, ce qu'on peut retenir de la première période du confinement, c'est que la fatigue et le stress n'ont pas pour autant disparu avec le télétravail. Et donc, il ne faut pas déconnecter ce qu'on peut faire sur le télétravail de ce qu'il doit être négocié aussi autour des enjeux de santé au travail. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment investir dans l'accompagnement managérial. La meilleure solution, c'est aussi qu'il y ait un cadre au niveau national. Je pense qu'il serait important pour le pays que les partenaires sociaux réussissent cette négociation sur le télétravail.
Le télétravail n'est pas une option, alors vrai ou pas, c'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et notre invité, le secrétaire général de Force Ouvrière, vient de s'asseoir dans le studio 521. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Alors le télétravail, la très grande majorité des employeurs et des salariés jouent le jeu et je les en remercie. Ça c'est ce qu'a dit la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Est-ce que vous diriez la même chose ?
Tout d'abord, on appelle télétravail ce qui s'est passé depuis le premier confinement et à nouveau en ce moment. En réalité, aujourd'hui, on demande, ce sont les prescriptions d'ordre public en matière de santé publique, les pouvoirs publics demandent au maximum de personnes de rester confinées. Donc, la conséquence sur le travail, c'est partout où on peut travailler à domicile, restez chez vous, travaillez à domicile pour éviter trop de population au même endroit, trop de population dans les transports en commun, pour éviter la propagation du virus.
Et ça se passe bien ou pas?
Ça se passe comme ça peut se passer. Ça se passe un peu moins mal que la première fois, puisque là, les salariés, ils sont mieux préparés, les entreprises sont mieux préparées, elles ont peut-être entre-temps pu équiper les salariés pour que on puisse télétravailler, parce que travailler depuis chez soi, à domicile, il faut être équipé. Tous les postes n'étaient pas a priori destinés à travailler en tout ou partie chez soi. Donc ça se passe sans doute un peu moins mal que la première fois.
Donc peu de conflits sur le terrain finalement, sur des discussions sur qui rechigne, qui veut bien, qui accepte entre direction et salariés. Ce que vous me dites ce matin, c'est ça se passe plutôt bien.
Dans votre reportage, les publics qui étaient ciblés, c'est beaucoup des ingénieurs, des cadres, des informaticiens, donc des métiers où on a plus l'habitude de travailler de manière mobile, on va dire. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est tout type de poste qui est envoyé à travailler à domicile. Et ça pose des difficultés. Tout le monde n'a pas suffisamment d'espace chez soi. Vous pouvez vous trouver dans un petit logement à deux ou trois à télétravailler, pour peu que le conjoint, la conjointe, l'enfant, éventuellement s'il est étudiant dans le supérieur, qui étudie à distance. Mmh. Et donc, si vous n'avez pas l'espace, si vous n'avez pas les bons équipements, il y a beaucoup de salariés aussi qui ont souffert de l'isolement. Quand on est en télétravail, à travail à domicile chez soi, on pense a priori que c'est plutôt sympa dans un premier temps, puis très vite on s'aperçoit qu'il n'y a plus de frontières entre la vie privée et l'activité professionnelle et ça crée des difficultés. Puis il y a l'éloignement du collectif de travail, des collègues de travail.
Il y a un numéro vert. Maintenant, il y a un numéro vert.
C'est la démonstration que ça n'est pas le rêve. C'est pour ça que nous bataillons pour obtenir un accord national interprofessionnel. Mais je le redis, FO, nous demandions d'ailleurs une négociation depuis 2015. Nous avions renouvelé en 2017, après un premier état des lieux que nous avions fait avec les employeurs. Ouais. Et évidemment, la situation nouvelle nous a amené à insister d'autant plus.
Alors justement, en effet, il y a une négociation entre les syndicats et le patronat pour trouver un accord sur le télétravail. C'était antérieur au Covid. Hein. Enfin, ça devait aller par là. La dernière séance, c'était mardi, ça a failli tourner au clash. Celle d'hier, elle a été annulée. Le calendrier, c'est de parvenir à un accord dans 10 jours. Est-ce que vous y croyez ?
On va tout faire pour parvenir à ce que la négociation débouche sur un accord qui protège les salariés. Parce que c'est ça l'important. Il faut que le télétravail, d'abord, ce soit le volontariat. Pour qu'il y ait du volontariat, il faut que la réversibilité, elle soit effective. Aujourd'hui, les dispositions existantes qui découlent d'un accord précédent en 2005 et des dispositions du Code du travail ne garantissent pas la réversibilité sur son poste de travail à tous les coups. Donc il faut ça qu'on s'en assure. C'est très important. Et il faut évidemment qu'on s'assure que au télétravail soient associées les définitions précises des plages horaires, qu'on ne tire pas sur les plages horaires au prétexte qu'on n'est pas dans les locaux de l'entreprise, etc.
Il faut un droit
à la déconnexion effectivement mis en œuvre.
Mais qu'est-ce qui coince, Yves Verrier? Mardi on en était quasi au clash. On a l'habitude avec les négociations sociales, mais qu'est-ce qui coince là?
Je pense que depuis pas mal de temps, les employeurs rechignent, ils l'ont dit, ils veulent bien maintenant finalement qu'on essaye de négocier, mais à condition que ce soit ni normatif ni prescriptif.
C'est ce qu'a dit le MEDEF.
Il n'y a aucun sens. Si on fait un accord, c'est pour qu'il soit normatif et prescriptif. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ils ont une attitude qui tente à renvoyer de plus en plus au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'accord de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Mais ça, on sait que ça met en difficulté les salariés, notamment là où il n'y a pas de présence syndicale, dans les plus petites entreprises. Ça met en difficulté le salarié quand il est seul face à son employeur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on cadre les protections au niveau national interprofessionnel.
Vous croyez qu'il y a un chemin en tout cas?
Ben, on va tout faire, hein. On l'a dit récemment, la négociation, vous savez, c'est pas une discussion autour d'un café sympathique, c'est un rapport de force. Les employeurs y sont entrés à reculons, j'espère bien qu'on va en sortir en ayant conforté les protections pour les salariés.
Yves Verrier, l'actualité cette semaine, ça a été aussi le reconfinement, l'annonce du fait que il n'y a pas de relâchement, un calendrier pour les commerçants, peut-être le 1er décembre, mais pas pour les bars, les restaurants, les salles de sport. Là, on entend quand même de la colère du côté de ces commerçants et de ces salariés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un risque de gilet jaunisation? On en a parlé de cette partie-là du monde du travail.
Bon, je ne sais pas si c'est un risque de gilet jaunisation. Moi, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a déjà des salariés qui, depuis plusieurs mois, sont en activité partielle. Et notamment, par exemple, dans les secteurs comme le secteur aérien, le secteur aéronautique. On y ajoute le secteur des cafés, restaurants. On y ajoute aujourd'hui les salariés, quand il y en a, des commerces de proximité. On y ajoute aujourd'hui, d'ailleurs, des salariés de la grande distribution, où manifestement, il y a aussi un peu d'abus de la part, parfois, des enseignes.
C'est-à-dire,
qui, du fait de la fermeture des rayons de produits dits non essentiels, ont mis un certain nombre de salariés en activité partielle. Et ces salariés en activité partielle, ils ont déjà, comme toute la population, la crainte du virus quand même, puisque, y compris le gouvernement, insiste beaucoup sur le danger à tous les âges de contracter le virus. Et deux, ils ont la crainte pour leur emploi. Et trois, quand ils sont en activité partielle et quand ils ne sont pas pris en charge à 100%, à la différence des entreprises, il y a une perte de pouvoir d'achat. Et c'est pourquoi nous bataillons pour que, un, évidemment, on préserve les emplois. L'activité partielle, on a soutenu le principe de l'activité partielle de longue durée pour préserver les emplois. Mais deux, il faut aussi penser que beaucoup de salariés, le salaire médian, c'est 1800 euros net par mois, à peine.
D'accord.
Moitié de la population est en dessous.
Donc vous comprenez leur détresse. Vous comprenez la détresse.
Il y a une détresse parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On est inquiet parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, d'abord sur le plan sanitaire, mais deuxièmement, que va devenir mon emploi? Vous savez, quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes en activité partielle, vous finissez par vous demander si vous allez retrouver finalement un emploi.
Alors justement, le chômage. Cette semaine, vous avez eu aussi beaucoup de choses. Le gouvernement qui vous a dit la réforme de l'assurance chômage, en fait, elle va bien se faire. Ça sera le 1er avril. Mais il annonce que les règles, elles seront peut-être moins dures que prévu. Par exemple, pour le calcul de l'allocation, pour avoir accès à ce droit. On sent que ça, c'est un recul. Est-ce que vous, à Force Ouvrière, vous êtes satisfait?
Non, parce que ce sont des aménagements à la marge. Au final, dans ce qu'on nous a présenté, on réaliserait 3 milliards 500 millions d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Donc, quasiment à peu près autant que ce que la réforme qui a été mise en place en 2019 prévoyait. Ça fait 3 reports successifs. Ça a été d'abord reporté au mois de septembre, puis au mois de décembre, puis au mois d'avril. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement cesse avec ses atermoiements. On est 5 confédérations à lui avoir écrit pour lui demander d'abandonner cette réforme nocive pour les travailleurs demandeurs d'emploi. Donc, encore une fois, puisqu'on brandit à tout bout de champ le dialogue social, quand les 5 confédérations s'accordent pour demander ensemble, et j'ajoute que c'est très directement lié au dialogue social, la réforme a mis en cause la convention que nous avions négociée en 2017 et qui était en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette convention négociée entre les employeurs et les confédérations syndicales.
Yves Verrier, l'usine Bridgestone va fermer à Béthune, on l'a appris il y a 48 heures, vous faites partie de l'intersyndicale. Comment vous avez reçu la nouvelle? Maintenant, ça va être quoi l'objectif?
Premièrement, pas très surpris parce que on avait bien compris que l'entreprise Bridgestone, les dirigeants avaient décidé de longue date de fermer cet établissement parce que on craignait, on voyait qu'il n'y avait plus d'investissement. La direction a confirmé qu'elle fermait définitivement. Ce que je trouve absolument inadmissible, c'est que dans sa lettre, l'argument pour fermer, c'est préserver la compétitivité des opérations de Bridgestone en Europe. Et je le redis, les pouvoirs publics sont démunis parce que on n'a pas mis en place de conditions, de contrôle, de sanctions quand les entreprises bénéficient d'aide publique, ce qui a été le cas de Bridgestone et bien d'autres situations du même acabit dont on parle moins, qui sont des plus petits établissements qui font pas la une des médias, mais c'est pourquoi on bagarre sur Bridgestone parce qu'il y a un côté emblématique.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Sandrine Foulon-Anne vous a écrit, elle est infirmière dans un établissement privé à but non lucratif en Franche-Comté. Elle a une question de vie au boulot. L'indemnité forfaitaire qu'elle va toucher et qui a été décidée par le gouvernement dans le cadre du Ségur de la Santé, est-ce que c'est une vraie augmentation de salaire qui va compter pour sa retraite ou est-ce que ça n'est qu'une prime au bon vouloir de l'employeur ?
Alors Anne, il s'agit bien d'une revalorisation salariale. L'État a débloqué une enveloppe pour augmenter l'ensemble des personnels non médicaux, les aides-soignantes, les infirmières, mais aussi les secrétaires ou les techniciens qui travaillent dans les hôpitaux et les EHPAD. Tous recevront une somme de 183 euros net par mois. La moitié a normalement déjà été payée avec un effet rétroactif au 1er septembre. Le restant du versement sera accéléré et devrait tomber sur votre bulletin de paye avant Noël. Ça concerne également toutes les infirmières qui, comme vous, Anne, sont employées dans des établissements privés à but non lucratif avec une mission de service public. Pour toutes les cliniques, des négociations sont en cours. La hausse de salaire devrait être de 160 euros net par mois. En revanche, il y a des grands oubliés, les personnels soignants et non-soignants qui travaillent à domicile, dans le handicap ou dans les centres d'hébergement d'urgence. Mais pour vous, Anne, pas d'inquiétude, cette somme est pérenne, elle comptera pour vos droits à la retraite, ne sera pas amputée en cas d'arrêt maladie, c'est du salaire en bonne et due forme, c'est différent de la prime de 110 euros à 200 euros brut par jour, prévue pour les soignants qui ont renoncé à leur congé de la Toussaint.
Sandrine, c'est plutôt une nouvelle rassurante, ça, pour les soignants qui sont à nouveau très sollicités.
Alors, avant cette augmentation, dans le palmarès des infirmiers les mieux payés en Europe, les Français figuraient à la 26e place sur 29, avec une rémunération inférieure de 20% à la moyenne. Après le Ségur de la Santé, on passe à moins 10%. C'est mieux, mais c'est toujours en dessous. En Suisse, une infirmière gagne le double, au Luxembourg le triple. Celles qui maîtrisent l'anglais font de plus en plus leurs valises pour le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Si on ajoute à ce niveau de salaire encore trop faible des conditions de travail qui deviennent de plus en plus intenables, on a un tableau assez précis de la crise des vocations en France. Thierry Amouroux, le porte-parole du syndicat national des professions d'infirmiers, rappelle que 26 000 diplômés sortent tous les ans, mais que beaucoup jettent l'éponge. Aujourd'hui, 180 000 infirmières qui pourraient travailler ont cessé d'exercer. Le divorce est total entre les soignants et leur administration, assure le syndicaliste. Selon l'Ordre national des infirmiers, 34 000 emplois d'infirmiers sont vacants, 10% des infirmières sont en burn-out et c'est loin de n'être qu'une question de gros sous.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, et ben, au bout du fil.
On n'arrête pas l'écho avec Business Energy, les solutions entreprises et professionnelles de la Banque Postale. Conditions sur la banquepostale.fr.